BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Un peu de patience pour Guillaume Paul, il
sera de
retour lundi prochain. Ça se rapproche en tout cas, et nous sommes en direct avec Audrey Tcherkov jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas, rebonsoir à tous.
Alors, dans l'actualité ce soir, on a bien sûr le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Il a présenté, vous l'avez entendu ce matin, sa vision pour les années qui viennent. Et l'Europe est en danger de mort, dit-il, si elle ne réagit pas vite et fort. On va évidemment débattre de tout ça avec nos experts.
C'est plutôt inquiétant. On va aussi parler de cette union des marchés de capitaux dont on parle souvent sur ce plateau. Alors, c'est redevenu très à la mode ces derniers temps au niveau européen. Et c'est Christian Noyer qui a remis son rapport ce matin à Bruno Le Maire. Alors, est-ce que les choses vont pouvoir avancer? Réponse dans un instant. Et puis, cette bonne nouvelle sur le front de l'emploi, puisque le nombre de demandeurs d'emploi est resté stable au premier trimestre après deux trimestres de hausse.
Pour débattre ce soir, nous serons avec Bruno Grandjean, président du directoire de Redex, Bruno Coquet, chercheur associé à l'OFCE, et Guillaume Clossa, président d'Europa Nova et de Civico Europa.
Ça nous promet un débat animé.
Oui, et en direct jusqu'à 20h.
A tout de suite.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance. Good evening business, le journal.
Et on commence donc avec le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Le président affirme que l'Europe est en danger de mort, dit-il, si elle ne réagit pas vite et fort. Il appelle notamment, vous allez l'entendre, à complètement revoir la politique commerciale de l'Europe. On l'écoute.
L'ouverture, oui, mais en défendant nos intérêts. Et je le disais, ça ne peut pas marcher si on est les seuls au monde à respecter les règles du commerce telles qu'elles avaient été écrites il y a 15 ans. Si les Chinois et les Américains ne les respectent plus, en sursubventionnant les secteurs critiques, on ne peut pas être les seuls à le faire. Ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Et nous sommes, à cet égard là aussi, trop naïfs ou avec une culture trop faible. On a un vrai levier. Nous sommes un marché de 450 millions de consommateurs. C'est une force immense.
Voilà, être moins naïf avec la Chine et les États-Unis, nous dit Emmanuel Macron. Les États-Unis qui annoncent quand même, malgré tout, aujourd'hui, une croissance beaucoup plus faible que prévu au premier trimestre, seulement 1,6% de croissance, au lieu des 2,2% attendus par le consensus. Comment expliquer cette contre-performance? Écoutez l'analyse du chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek.
Tout est un peu mou du côté de la demande intérieure. On a un ralentissement assez net de la consommation privée. On a aussi un investissement non résidentiel qui est un peu mou. Donc rien de catastrophique côté demande intérieure, mais c'est quand même un peu plus plat. Mais le grand élément qui fait passer la croissance américaine un peu en dessous du potentiel, c'est la contribution très négative des échanges extérieurs. Et ça, c'est probablement le prix que les États-Unis payent pour l'appréciation du dollar.
Gilles Mouek sur la contre-performance de la croissance américaine. Dans l'actualité des entreprises, à présent, on va une avalanche de résultats trimestriels. Aujourd'hui, 11 des 40 groupes du CAC ont publié leur trimestriel et on va se pencher sur ceux d'Airbus. Bonsoir Jean-Baptiste Huet. Ça vient de tomber et pour faire simple, Jean-Baptiste, Airbus publie des résultats plutôt solides au vu du contexte.
Exactement ça, 12,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre. C'est en hausse de 9% par rapport à l'année dernière. C'est pile poil dans le consensus des analystes, d'accord. Donc ça c'est correct. 600 millions d'euros de bénéfices, donc c'est vraiment solide. Guillaume Faury, le patron d'Airbus, met quand même le doigt une fois de plus sur cet environnement qui reste très compliqué. En parlant d'environnement, on parle de la supply chain, toute cette chaîne d'approvisionnement qui reste grippée depuis des mois. Et puis toutes les tensions géopolitiques qui ont quand même des répercussions importantes. Les cadences de livraison donc sont bonnes. Airbus a livré depuis le début de l'année 142 appareils. Je vous rappelle que l'objectif, c'est 800 appareils d'ici la fin de l'année. Il y a quand même des très bonnes nouvelles. On a eu des bonnes nouvelles, meilleures encore que ces résultats, qui sont corrects, mais bon, voilà, ça, Airbus aurait pu mieux faire. Effectivement, on a une belle annonce de la compagnie low-cost Indigo, qui commande aujourd'hui à Airbus 30 long courrier A350.
Compagnie indienne, c'est ça?
C'est la compagnie indienne Indigo qui, à l'occasion du Salon du Bourget, avait déjà commandé 500 appareils. Ouais, donc là, ce 30 appareils de plus, plus une option pour 70, ça nous fait quand même un petit chèque entre 9 milliards et demi et 10 milliards d'euros. Et puis peut-être, possiblement, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, une autre annonce qui pourrait nous venir de la Chine, puisque vous savez que Xi Jinping, le président chinois, doit venir en visite au mois de mai.
Tout à fait.
Et il se murmure, comme dirait l'autre, qu'une grosse commande de plusieurs centaines d'appareils est en cours de préparation et qu'elle pourrait peut-être être annoncé à ce moment-là. Donc en tout cas, des résultats solides. Vous l'avez dit, ce résultat solide dans un environnement complexe quand même pour Airbus lors de ce premier trimestre.
Merci beaucoup Jean-Baptiste. Airbus délivre Airbus délivre, on ne peut pas en dire autant de Kering. Bonsoir Pauline Tadevin. Vous étiez sur place pour l'Assemblée Générale de l'entreprise. On le sait, l'entreprise va mal. Quelle était l'ambiance sur place, Pauline ?
Ce qui était intéressant d'observer lors de cette Assemblée Générale, c'est l'exercice de grande transparence et aussi d'humilité. François-Henri Pinault, le PDG, a assumé clairement la situation de ce groupe, la situation du cours de bourse. Il a déclaré d'ailleurs, quand on voit la trajectoire d'un cours de bourse, l'entière responsabilité en vient au management du groupe, comme ce qu'on fait avec Kering ce soir. Donc voilà, ça on l'a dit, il assume ce qui se passe. Ils ont trop tardé, dit-il, à élever la marque Gucci. Ils ont pris un train de retard par rapport aux concurrents, sauf que Gucci, ils en dépendent beaucoup, c'est la moitié des ventes. Gucci plonge, donc Kering tombe avec. Une fois qu'on a dit ça, ils renforcent à fond le management opérationnel avec deux directeurs généraux, Francesca Bellettini, qui est en charge de toutes les maisons du groupe, c'est la patronne de Saint-Laurent depuis 10 ans, et là, elle a en charge, elle, tous les CEO de toutes les maisons rapportent à Francesca Bellettini et aussi l'ancien directeur financier Jean-Marc Duplex. Il y a une organisation très solide, il y a un conseil d'administration qui est renforcé, ça a été redit ce soir avec la nomination de nouveaux administrateurs. Donc tout est en place. Ils ont aussi donné le plan d'action pour Gucci, par exemple, justement pour faire en sorte que ça reparte d'ici la fin de cette année ou 2025, espère François-Henri Pinault, pour faire repartir. Eh bien, on travaille sur l'image de la marque et sur les produits, a dit Francesca Bellettini. L'idée, c'est d'aller plus haut dans l'élévation justement de la marque, faire en sorte que toute la clientèle plus mature, plus aisée adhère au groupe et à la marque, et plus seulement la clientèle aspirationnelle qui est plus jeune, qui était plutôt donc juste ici la clientèle, une partie de la clientèle de Gucci, ouais. Notamment, et ils veulent faire en sorte de s'adresser à une clientèle plus mature. Pour ça, ils vont lancer deux sacs à main d'ici la fin de l'année, a dit François-Henri Pinault, qui s'adresseront en même temps à ces deux catégorie de clientèle. Ça va prendre du temps, a-t-il dit aussi, parce que pour fidéliser, pour faire revenir une clientèle plus mature, eh ben, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ils sont prêts à investir beaucoup. Ils assument totalement les investissements dans l'immobilier, par exemple, très chers qu'ils ont pu faire et qui peuvent leur être reprochés, parce qu'il dit quand ça va repartir, il faudra qu'on soit là. Quand la situation économique va repartir, quand la Chine va repartir, etc., il faudra qu'on soit là. Donc, il assume. La situation financière est extrêmement saine, a dit Jean-Marc Duplex, l'ancien directeur financier qui est désormais directeur général. Donc voilà, on part d'assez loin et on veut construire du durable. On se donne le temps pour développer le deuxième chapitre de l'histoire de nos maisons, a dit François-Henri Pinault. Ce soir, le deuxième chapitre donc de l'histoire de...
Ah ouais, la formule n'est pas anodine, ouais.
Voilà.
Nouveau départ pour
nouveau
Kering.
Départ. Le terme a été utilisé, de nouveau départ. Voilà. Et pour Gucci aussi, parce que le nœud du problème, il est beaucoup là.
Évidemment, on l'a compris, il est là. Le mea culpa et le nouveau départ pour Kering. En tout cas, c'est l'objectif de François-Henri Pinault. Merci beaucoup, Pauline Tadevin. On va parler d'automobile pour finir, et plus précisément du marché des utilitaires, qui, vous le savez, est majeur. Il est fondamental pour les constructeurs automobiles. Et face aux leaders que sont Renault et Stellantis en France et en Europe, Toyota, qui jusqu'ici est très peu présent sur ce marché, eh bien, a présenté aujourd'hui à Rungis trois nouveaux modèles 100% électriques. Justine Vasson y était sur place.
Nous sommes à Rungis. C'est ici que Toyota a décidé de lancer son offensive sur le véhicule utilitaire. La marque n'est pour le moment qu'un petit pousset sur le marché.
3,9% de part de marché en France depuis le début de l'année. Une miette face à Renault ou Stellantis qui chacun pèse plus de 30% sur le segment utilitaire. Toyota, qui a traditionnellement plutôt misé sur les particuliers, a décidé de changer de braquet. Franck Marotte est le président de Toyota France.
Nos ventes sociétés ont considérablement augmenté. On est aujourd'hui à 40% de nos ventes. C'est moins que la moyenne du marché. Néanmoins, ça a beaucoup progressé et c'est ce qui a alimenté notre croissance. Et on sent bien qu'un certain nombre de nos clients qui nous achètent aujourd'hui des véhicules particuliers ou certains utilitaires attendent ces compléments de gamme pour continuer à rester loyaux dans notre marque.
À Rungis, Toyota a levé le voile sur trois nouveaux véhicules utilitaires élaborés en partenariat avec Stellantis. Ils seront tous disponibles en version électrique dès juin et comptent entre 300 à 400 km d'autonomie. Xavier Barton est directeur de la performance commerciale chez Toyota France.
On vise les TPE en priorité. On veut aller chercher un par un les métiers. On n'a pas forcément vocation à aller essayer d'aller chercher les plus grands marchés en France, parce qu'ils nous coûtent et ils coûtent très cher.
L'argument de Toyota, c'est le prix de ces véhicules utilitaires. Il promet un coût d'usage équivalent en électrique et en thermique. D'ici 2 ans, Toyota veut avoir doublé ses volumes en France.
Justine Vassogne, 19h09, on va sur les marchés.
Le
Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC à Paris ce soir. On est dans le rouge, le CAC 40 recule de 0,93% à 8016 points. Rebonsoir Étienne Brack.
Bonsoir Thomas.
Comment ça se passe à Wall Street? Comment est-ce qu'on encaisse les chiffres de croissance?
Pas très bien, hein. Surtout que vous avez les GAFAM qui commencent à publier et ça n'a pas très bien commencé avec Meta, hein, qui perd quand même plus de 10% ce soir.
Ah oui, c'est
avec des résultats qui sont au-dessus des attentes, mais le marché, c'est pas vraiment ce qu'il veut parce que Meta investit dans l'intelligence artificielle, mais un peu trop de millions, de milliards au regard du marché. Donc du coup, le titre perd 10%. Donc vous voyez, on est vraiment dans une période
11,10%,
un petit peu compliquée.
Ouais, c'est violent.
Voilà. Ce soir, vous aurez les résultats de Microsoft qui perd déjà plus de 3% là juste avant, à moins de 3 heures de sa publication. Alphabet également, la maison mère de Google, va dévoiler ses résultats. Et puis en effet, en tâche de fond, une croissance qui est moins solide qu'anticipée. Alors elle est toujours là. En Europe, ça nous fait jaser quand même. Hein. 1,6% de croissance au premier trimestre aux États-Unis, mais c'est beaucoup moins qu'au quatrième trimestre, hein, qui était au-delà des 3%. Et puis surtout, le consensus attendait un peu plus de 2%. Donc moins de croissance, une inflation qui est toujours présente. On le verra demain, on aura les chiffres, hein, actualisés. Mais vous avez quand même une inflation qui est toujours présente, quasiment 3% aux États-Unis. Et puis surtout, les États-Unis qui ont du mal à se financer. Hier, ils ont voulu émettre 70 milliards à 5 ans et il y a eu beaucoup moins de demandes qu'anticipées. Et quand vous regardez le 10 ans américain, il revient à 4,7. Le 2 ans revient à 5%. Des taux qui sont au plus haut depuis novembre dernier. Donc vous voyez un cocktail
qui n'est pas bon du tout.
Voilà, des petits signaux faibles. Et puis dans le même temps, il ne faut pas l'oublier, une très belle performance depuis le début de l'année. Donc vous avez quelques prises de bénéfices et 3 indices américains qui perdent entre 1 et 1,3% ce soir.
Bon, eh ben, il faut qu'ils nous demandent à nous comment faire pour lever de la dette. Merci, merci beaucoup Étienne Brack. 19h11, on marque une pause. Audrey Tcherkov et nos experts arrivent après la pub. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h13 sur BFM Business. On parle d'Europe avec nos experts ce soir. Bruno Grandjean, bonsoir. Président du directoire de Redex. Bruno Coquet, bonsoir. Chercheur associé à l'OFCE.
Bonsoir.
Et Guillaume Clossa, président d'Europa Nova. On commence donc évidemment avec le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe à la Sorbonne. C'est un discours fleuve qui a duré pratiquement 2 heures pour donner sa vision de l'Europe à quelques semaines des prochaines élections. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le président est inquiet à la fois pour l'économie, mais aussi pour la démocratie. Il va même jusqu'à dire que l'Europe peut mourir. Est-ce que vous pensez que la situation est si grave que ça, Bruno Coquet ?
Moi, je suis pro-européen, donc du coup, je suis sensible à ce discours. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Est-ce que l'Europe peut mourir ? Oui, ça peut se déliter, ça peut mal se passer. Hein. Ça me semble extrêmement clair. Ça nécessite d'être tenu, ça nécessite d'être vendu et expliqué aux gens.
Oui.
Le problème, c'est que je ne sais pas trop à qui il parle. Donc ça, c'est le premier point. C'était très technique, sur plein de sujets. C'est une mosaïque de plans. La stratégie totale, on n'a pas très bien compris. Et puis, ce point, c'est... on n'est pas tout seul. Donc, du coup, qui sont ses alliés? Avec qui a-t-il ses projets? Parce qu'il dit souvent « je ». Mais bon, juste la liste, si c'est juste la liste Renaissance à Bruxelles, avec qui s'allie-t-il? Ses projets sont-ils partagés par d'autres pays? C'est comme une question de base à laquelle on n'a pas la réponse. Et en plus, des visions très franco-françaises des problèmes, alors que ce qui empêche l'Europe d'avancer, souvent, c'est aussi d'en rabattre un petit peu par rapport à l'exception française, on va dire, et puis mais de s'adapter un petit peu à ce que veulent les autres, essayer de chercher à comprendre ceux qui souhaitent, etc., plutôt que de leur imposer notre vision du monde.
Bruno Grandjean.
Oui, je partage ce qui a été dit. Effectivement, quelle crédibilité pour un Emmanuel Macron qui serait le leader de l'Europe, qui fait partager une vision, et puis à côté de ça, un déficit commercial terrible. On vit au crochet de nos partenaires en termes de déficit. On a des problèmes économiques majeurs. Donc, il y a effectivement une vision française, mais elle est ancienne. Elle date des années de Gaulle, des années Pompidou. Ce qui nous rend fort aujourd'hui, qui fait qu'on existe toujours dans ce débat, c'est la politique nucléaire des années Pompidou. C'est notre arme de dissuasion. C'est un certain nombre de réussites industrielles. Mais du passé, aujourd'hui, quelle crédibilité pour la France pour montrer la voie aux autres pays européens? Elle est très faible, cette crédibilité.
Oui, ceci dit, il a quand même été plutôt lucide sur les sujets d'armement, sur les sujets de sécurité, sur les sujets économiques aussi, où il explique que nos grands partenaires économiques commencent à changer les règles du jeu, avec un dumping qui ne cache plus son nom. Il n'a pas adressé que les problèmes français, Guillaume.
Je pense que, d'abord, il n'a pas fait qu'un discours qui s'adressait aux Français, et... pour moi, ce n'est pas un discours essentiellement électoral, parce que comme vous l'avez dit, c'est trop long. C'est pas... En fait, il faut comprendre dans quel, à quel moment de l'agenda européen on se trouve. L'Union européenne n'est pas une fédération. Elle est dirigée par les États membres et c'est les États membres qui définissent ce qu'on appelle l'agenda stratégique.
Et c'est toute priorité. La complexité, oui.
Ben oui, mais c'est comme ça, parce qu'il y a une ambiguïté avec les élections. On a l'impression, c'est parce vrai. Que les parlementaires européens ont une mission fédérale, quelque part, qui est de représenter, que c'est eux qui vont faire... Mais non, la vérité, c'est qu'on est dans l'Europe que souhaite Bardella, et que cette Europe, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui la dirigent, et que l'agenda stratégique, c'est-à-dire la définition des priorités européennes pour les années à venir, elles sont décidées par le Conseil européen. Et c'est en ce moment que ça se prépare. Et c'est pour ça d'ailleurs...
C'est les chefs d'État qui tiennent la main de la Commission.
C'est les chefs d'État qui encadrent la Commission. Ouais, c'est-à-dire que le programme de travail du Parlement européen, du Conseil... Et de la Commission, il est défini par les chefs d'État. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé, j'y étais, j'ai travaillé, et je peux vous le dire. Mais après, le problème, c'est que les entreprises, après, elles interviennent à la Commission trop tard, et elles se disent, putain, on ne peut rien faire, tout est fait. Mais parce qu'elles ne sont pas intervenues au bon moment auprès des chefs d'État et de gouvernement. D'accord. C'est maintenant que ça se passe. Et donc, dans ce cadre-là...
C'est ce que disait le Président ce matin, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut faire les bons choix.
Mais bien sûr,
auquel cas, donc, on a un risque de disparition.
C'est maintenant qu'il y a deux choses à faire. D'abord, se mettre d'accord sur le constat. Parce que si on n'est pas d'accord sur le constat, eh ben, on n'arrive pas à prendre...
On ne peut pas être d'accord sur la méthode, oui, ça c'est sûr.
Les bonnes décisions. Ouais. Alors, il faut... Ensuite, une fois qu'on est d'accord sur le constat, il faut définir les priorités. Et après, il y a une question de méthode. Mais donc, c'est ces trois éléments qui sont importants dans la dynamique européenne. Aujourd'hui, le sujet, c'est de dire... Quel est le constat? Quelle est la vision? Et je pense que le chef d'État, Emmanuel Macron, avec son discours, a tracé un constat sur lequel, en vérité, les Européens, aujourd'hui, sont d'accord. C'est-à-dire que...
C'est pas ce que vous dites, Bruno Grandjean, non?
Mais... Non, moi, ce que je dis, c'est que l'Europe, c'est un objet un peu hybride. C'est-à-dire que c'est pas une fédération, mais enfin, la politique commerciale, elle est quand même décidée. Elle a été mise dans le pot commun, la politique commerciale. Et quand le président Macron nous alerte sur le danger de la concurrence, il enfonce une porte ouverte. Les autres le savent très bien. Et on est le seul pays à avoir un déficit commercial. L'Union européenne, elle est excédentaire. C'est une puissance marchande par construction. Donc, il est à contre-temps de nos partenaires. Les Italiens dégagent des excédents, même les Espagnols, et je ne parle pas des Pays-Bas et de l'Allemagne. Donc la France est faible et sa voix n'est pas entendue parce que quand on n'est pas exemplaire, on ne peut pas prétendre montrer une voix aux autres.
On est en pleine politique de réindustrialisation.
Oui, non, parce qu'on n'est pas seul.
Normalement.
Je suis désolé. On n'est pas seul. Et secondo, sur la politique commerciale, il y a déjà des évolutions qui ont été actées. Le président, on a reparlé, mais en vérité, elles sont déjà actées. C'est-à-dire qu'on veut une politique commerciale de nouvelle génération, beaucoup plus équilibrée, qui intègre un certain nombre de valeurs européennes ou de contraintes en matière environnementale de manière beaucoup plus forte. Et là-dessus, il y a déjà un accord. Il y a déjà un accord. Alors, on peut faire comme si ce n'était pas le cas, comme le fait Bardella, mais la vérité, c'est qu'on a déjà avancé là-dessus et que même sur la discussion qu'on...
Non, mais là, pardon, ce matin, ce que dit aussi le Président, c'est qu'il faut être protectionniste. On va appeler un chat.
Mais bien sûr, parce que la réalité a changé et on est dans une réalité où il y a deux superpuissances aujourd'hui, qui sont les États-Unis et la Chine. Mm-hmm. La Chine, parce qu'elle est au bout de son modèle... Et notre ami économiste pourra revenir dessus. Au bout de son modèle qui s'est appuyé et sur le marché intérieur, et sur l'investissement financier, et sur le logement, a décidé et a maintenant une politique pour les 15 années qui viennent d'augmentation des capacités productives sur des marchés et des secteurs qui sont les vôtres d'ailleurs, et sur lesquels les Chinois veulent nous attaquer directement. Et de l'autre côté, il y a les Américains.
Ça a commencé depuis longtemps, oui.
Mais maintenant, ça va être massif.
Ouais, parce que là, on est deuxième dans vague.
Et de l'autre côté, il y a les Américains qui ont décidé de subventionner de manière massive leur transition énergétique. Mmh. Et donc, on est pris en étau. Et à partir de là, il faut changer de stratégie. Et c'est ce que dit Emmanuel Macron. Et je suis d'accord avec lui là-dessus.
Et Bruno Coquet, vous sembliez dubitatif.
Oui, moi, première chose, le Conseil a du mal à faire obéir la Commission. Moi, j'étais président d'une formation du Conseil. Mon premier sujet, c'était de faire en sorte que la Commission applique les décisions du Conseil. Donc, c'est pas si simple. Premier point. Deuxième point, Emmanuel Macron a de très bonnes idées. Moi, j'en partage plein. Cependant, je n'ai aucun indice que les autres sont d'accord avec, sinon ce serait déjà fait. Et or, si on passe des nuits à négocier au Conseil européen, c'est bien parce que le diable est dans les détails et que chacun défend son intérêt jusqu'au bout du texte et qu'au bout du compte, on voit bien que tous ben les
la réforme
réglés.
Du pacte de stabilité, la dette en commun, il y a eu quand même des lignes qui ont bougé, qui ont...
La production non, mais,
ont,
de vaccins... Ah,
attention, je dis pas qu'il y a des choses qui ont avancé minimes, clairement.
L'Europe a trouvé des consensus.
Il y a des choses qui ont avancé clairement, mais quand même, il y a un angle mort dans tout ce qu'il a dit ce matin. C'est sur l'Europe sociale. Alors l'Europe sociale, c'est le début de la procrastination. C'est quand même 15 articles à l'instigation de la France dans le traité européen qui définissent un socle juridique, des procédures, des obligations des uns et des autres, et la subsidiarité. Et ça, il n'en dit rien. Or, il s'agit quand même de vendre un projet européen aujourd'hui. Donc, on le vend à qui ? À des gens qui se disent « Ah ben, peut-être que c'est autre chose que juste des négociations sur l'énergie, sur le commerce. » C'est ça aussi. Il faut le faire. C'est,
enfin, il en a parlé, Bruno. Il a quand même rappelé que le modèle social européen était le plus généreux du monde, que ça restait une de nos forces. Et il a quand même terminé son discours en revenant sur l'humanisme au sein de l'Europe et l'importance de mettre en place des conditionnalités.
Redresse, moi, c'était en 30 dire... secondes ce qu'il a dit. Moi, c'est mes sujets, donc je les surveille, je les connais bien. Et donc, du coup, j'étais hier à une conférence sur le bilan et les défis de l'Europe.
Oui.
Pas un mot sur ce sujet. Pas un mot. D'aucun intervenant. Et donc, du coup, je pense qu'il a défendu des sujets importants, alors, nécessaires, mais bureaucratiques. Il parle à des gens convaincus comme nous.
Ouais.
Et ça, c'est.
Et alors, voilà. Moi, j'aimerais
Guillaume Clossa, et après Bruno Grandjean.
Je suis désolé. Moi, j'ai fait un travail avec 50 personnalités européennes, de droite, de gauche, des syndicalistes, des grands patrons de toute l'Union européenne, pas seulement des Français en franco-français, qu'on a fait pendant 4 mois. Et on a défini un consensus sur lequel on pensait pouvoir aller. On l'a checké parce qu'on a vu la moitié des chefs d'État et de gouvernement, et je peux vous dire qu'il y a moyen d'aller vers un nouveau consensus européen, et que ce consensus n'est pas neutre. Et ce consensus, c'est transformer l'Union européenne en puissance globale, durable et responsable, avec des priorités qui sont hyper claires.
Mais alors, pardon, comment ? Parce que hyper c'est exactement clair. Ce qu'a dit le Président, d'abord, c'est ce que vous dites, oui, une Europe puissance.
Non, non,
vous avez peut-être niqué la formule, mais comment on fait ?
Non, c'est sûrement, mais c'est pas le sujet. La formule d'Europe puissance, elle existe avant moi.
Oui, non.
Mais il l'a repris, ça fait partie de l'ADN français.
Mais comment on fait pour faire une Europe puissance ?
Attendez, le sujet, c'est pas l'Europe puissance, c'est transformer l'Union en puissance et définir les bonnes priorités dans cette perspective. Parce que la transformation d'un objet politique et économique en puissance, ça dépend aussi des objectifs que vous allez lui donner. Et on est dans la période où on définit les objectifs. On a défini, c'est pas moi, quand je dis on, c'est ces personnalités, il y avait plein de grands patrons aussi. Et il y avait des entrepreneurs de la tech, mais aussi des entrepreneurs...
C'est la puissance économique, par exemple. C'est la puissance économique, par exemple, comme objectif.
Et les objectifs sont très clairs. Le premier, c'est qu'il faut la puissance géopolitique, parce que la compétitivité dans un monde de rapport de force, ça se joue aussi dans le domaine géopolitique, et ça se joue par la défense et par l'armée. Et que les Européens ont besoin de vraies industries européennes de défense et pas des industries franco-européennes de défense, parce que la défense et les industries de défense, c'est un énorme levier en matière d'investissement de R&D, de subvention, etc. Mais attendez.
Donc la défense,
sur nos propres bases.
Oui, mais là, c'est ce qu'on est en train de. C'est ce qui a été fait.
Donc il a fixé nos propres bases.
Mais c'est important, parce que si on n'est pas d'accord sur les bases, on ne peut pas avancer. Et vous dites, on ne peut pas avancer.
Mais là, il n'a pas montré qu'il était d'accord et qu'il avait des alliés.
Des alliés.
Le point, il n'en a pas parlé. Nous sommes une alliance, la question que posait, dans les différents pays, c'est la même chose.
J'essaie de répondre à la question que posait Thomas, qui est de savoir s'il y a les bases pour avancer. Et je vous dis oui, et je vous dis qu'il y a une dynamique
européenne. Donc pour une Europe de la défense, c'est pour faire quoi d'autre ?
Donc pour une affirmation géopolitique de l'Europe, notamment en matière de défense et d'armement. Deuxièmement, pour un leadership retrouvé dans le domaine scientifique, de la recherche, de l'innovation et de l'industrie. Et ça s'organise.
Mais tout le monde est pour. Donc le point, c'est la mise en œuvre.
Mais non, mais c'est pas que tout le monde est pour. Ça n'a pas fait partie des priorités du dernier mandat. Je suis désolé.
Oui, mais Guillaume, qui est contre ?
Faire une priorité, il y a un écart.
Oui.
Parce qu'à partir du moment où on dit c'est une priorité, on se donne les moyens. Et c'est là que la méthode elle intervient.
Oui, une volonté politique.
Oui, mais attendez, parce que quand Emmanuel Macron rappelle tout à l'heure son Buy European Act avec la préférence européenne, notamment pour les achats militaires, avec un rapprochement entre les différents types d'armes, etc., et la création d'une académie militaire européenne, c'est vrai qu'il a cité aucun pays qui se rallie à ça. Et ça, on en parle depuis combien de temps ?
Alors, moi, je pense que dans la méthode, il aurait dû sans doute, et de manière très claire, montrer que c'était quelque chose. Son discours avait été préparé en européen. Je sais qu'il a consulté des Européens. J'ai participé à des consultations où il y avait des Européens. Donc je peux vous dire qu'il l'a fait en européen. Mais sur la forme, il aurait dû le dire, il aurait dû l'expliciter et il aurait dû expliciter la méthode de son discours.
Et
ça, c'est très important.
Ça a manqué.
Ça, c'est un défaut français. Oui. Pas que d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai de tous ses prédécesseurs, même de nous. C'est qu'on donne le sentiment, en fait, que tout nous vient du ciel et que nous portons. Et la vérité, c'est pas ça du tout. C'est que Emmanuel Macron a essayé de porter un consensus, sauf qu'il ne l'a pas dit suffisamment.
Ouais.
Et je pense que ce consensus, il est dynamique.
Alors, Bruno
et
Grandjean,
qu'il y a la conscience aujourd'hui qu'on doit avancer ensemble.
Le consensus industriel, si on vous suit, Guillaume Clossat, Emmanuel Macron parle au nom, pas que de lui, mais des 27, c'est de dire qu'il faut être leader mondial dans 5 technologies d'avenir, l'IA, le quantique, l'espace, les biotechnologies et les nouvelles énergies. Est-ce qu'on peut y arriver?
On peut être aussi leader dans les machines-outils, ça semble utile. Hein,
sait que...
Ce que
vous faites.
Donc quand un politique nous dit quelles sont les technologies d'avenir, moi pardonnez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un sourire, mais quelle est la compétence d'Emmanuel Macron pour nous dire ce que seront les technologies d'avenir? Ouais. On l'a bien vu, quand les politiques se sont occupés de réduction de CO2 en interdisant les voitures électriques, alors qu'il fallait rester neutre technologiquement. Ce sont aux ingénieurs on doit leur donner des objectifs, mais ce sont aux ingénieurs de définir les technologies. Moi, j'ai très peur d'Emmanuel Macron quand il part comme ça, dans un délire très franco-français, visionnaire.
Non, mais pardon, les Chinois, les Américains, ils font pareil. Il faut qu'on aille à fond sur l'hydrogène,
les Chinois encore plus.
À fond sur l'IA. Attendez, ils disent la même chose.
Bah, ils sont à fond, par exemple, sur la voiture électrique aujourd'hui. Ils sont à fond sur les batteries, sur des choses.
Et voilà, ils se sont fixés un objectif industriel.
Et basique.
Ouais.
Et cette recherche de champion, de définir ce qu'on doit faire, etc. Ça me fait vraiment très peur. Moi, je pense que l'Europe, aujourd'hui, par exemple, est très forte dans les biens d'équipement. Personne ne le sait. On n'a pas forcément besoin de faire des semi-conducteurs. On fait les machines pour faire les semi-conducteurs. Mmh. Aujourd'hui, sans ces machines faites en Hollande, il n'y a pas un semi-conducteur qui peut se faire. Donc, il y a plein de moyens d'avoir une politique de puissance. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui pourra les définir depuis l'Élysée. Ça, il faut laisser une forme. Mmh. D'ailleurs, c'est la créativité européenne, la chance européenne. C'est justement qu'on soit parfois en compétition entre Européens et qu'on laisse la créativité de nos ingénieurs, nos chercheurs, nos entreprises.
Non, mais
Guillaume,
je suis d'accord avec vous. Je pense que Il faut définir une ambition de leadership. Et ça, c'est hyper important parce qu'on ne l'avait pas. Et si on n'a pas cette ambition, on n'y va pas. Et c'est après
il faut une fierté européenne.
C'est un bouquin que j'ai écrit, donc je ne peux pas vous dire mieux. Il faut une fierté européenne et on peut être fier de ce qu'on a fait. Et on est en vérité la première puissance exportatrice mondiale en matière industrielle. Et on est devant les Chinois et devant les Américains. Ça, on ne le dit pas parce que nous, Français, comme vous l'avez dit de manière très juste,
on est en dehors un peu, du coup.
Problème depuis que je suis petit et que je vais à l'école qui n'a pas changé. Et on aimerait bien que ça devienne le problème de l'école, c'est qu'on s'est positionné sur des industries intermédiaires à moindre valeur ajoutée, pas tous, hein, mais une partie, et on a eu du mal à en sortir. Bon, mais ça, c'est un sujet. Mais ce que vous dites est très, très juste. Aux politiques de définir l'ambition, et après, il faut définir la dynamique pour y aller. Et le savoir-faire de la Commission, à l'époque de Delors, et aussi un peu à l'époque de Juncker, c'est d'embarquer les acteurs pour créer des dynamiques qui permettent d'identifier les bons secteurs.
Sauf qu'on est à l'époque de Delors.
Oui, c'est ça. Et puis, attendez, parce qu'on parle des trajectoires données et des secteurs d'avenir à financer, etc. Mais il a aussi parlé de la question du financement, notamment du budget européen.
C'est un vrai sujet.
Avec des ressources propres, exactement, et des taxes prélevées directement au niveau européen pour éviter de faire peser la charge sur les citoyens. Il a quand même été assez courageux sur ce volet-là.
Mais je pense qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a une série de besoins qu'on a identifiés et on sait qu'en européen, entre guillemets, on est plus fort pour produire un certain nombre de biens, de services publics et ça demande plus de ressources. Bon, ça, c'est une chose. Après, le sujet, et vous l'avez très bien souligné, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne uniquement de la France. Il faut qu'il y ait une dynamique collective de différents chefs d'État et de gouvernement qui fonctionnent en écho pour que ça crée une impulsion générale. Et donc, la question est de savoir si c'est juste le discours du président de la République ou si ce discours s'inscrit dans une dynamique un peu plus large qui va permettre de prendre des décisions.
Justement,
et ça, c'est la forme du leadership.
On continue d'en parler dans un instant.
Un leadership coopératif, collectif, où chacun s'organise pour jouer son rôle. Et c'est comme ça que l'Europe peut avancer de manière beaucoup plus rapide.
Et on continue à parler d'Europe après le rappel des titres. Ah, tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h34 sur BFM Business. Nous sommes avec Bruno Grandjean, Bruno Coquet et Guillaume Clossin. On continue à parler d'Europe avec maintenant la question de l'union des marchés de capitaux. C'est le sujet à la mode en Europe. Alors la France et l'Allemagne en font une priorité. Il y a eu, rappelez-vous, le rapport d'Enrico Letta la semaine dernière et aujourd'hui celui de Christian Noyer à Bruno Le Maire. Est-ce qu'il y a effectivement urgence à réaliser cette union des marchés de capitaux ? Ou pas forcément, Bruno Grandjean ?
Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je crois comprendre, c'est que l'épargne des Européens, aujourd'hui, elle part aux États-Unis. Et que c'est le grand problème. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que les Européens ne croient pas en l'Europe. Puisque finalement, ils n'investissent même pas. Les Allemands n'investissent pas en France, les Français en Italie ou vice-versa. Donc, c'est là qu'est le fond du problème. D'ailleurs, derrière tous ces problèmes techniques, quelle Europe voulons-nous faire ? Est-ce que les peuples ont envie d'une Europe où, finalement, un Italien nous est plus proche qu'un Américain, qu'un Algérien ou qu'un un Asiatique. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir une solidarité européenne ? Parce que faire un livret A européen, pourquoi pas ? Mais on fait
c'est
un livret A français.
C'est une des propositions de Christian Noyer. Il dit un produit d'épargne européen.
Parce que les Français ont envie de construire ensemble. Avons-nous envie de construire quelque chose ? Est-ce que les Européens, les flux de capitaux, j'ai l'impression, ne démontrent pas qu'il y a une envie d'Europe ?
Non, mais ce qui est certain, c'est que
il y a
des fonds d'investissement et des fonds de pension aux États-Unis qui justement ponctionnent tout cet argent qui n'existe pas en Europe.
Non, mais ils ponctionnent aussi toutes nos entreprises. C'est-à-dire que dès qu'on a une start-up qui réussit, elle va aller se coter sur le marché américain. Se cotant sur le marché américain, de facto, ça devient une société américaine. Mmh. La famille des créateurs s'installe aux États-Unis, les enfants deviennent américains, le centre de
réalité. Ouais.
Donc, il y a une machine de captation en fait, des ressources européennes. Et évidemment, on a intégré ça et on investit sur des marchés qui sont plus larges. Parce que moi, je suis aussi président d'une boîte de tech. On n'a pas la capacité aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu du rapport de l'État, de se penser de facto à l'échelle européenne dans le domaine de la santé.
Mais si on le fait pas, parce que justement il n'y a pas un marché des capitaux que les peuples suffisant.
Non, pour le financer. Oui, ça je peux vous dire que les peuples en ont envie.
Moi quand je vois un match de football où il y a Allemagne Argentine, je suis pratiquement persuadé que la quasi-totalité des Français vont soutenir les Argentins.
Alors là vous parlez d'une spécificité.
Ouais, c'est spécial le foot là, Bruno.
Non, et puis l'Argentine
ouais,
c'est spécial.
C'est un exemple.
Oui,
une
histoire particulière.
C'est la seule nationalité de gens qui se considèrent comme Européens en Amérique et donc ils se considèrent incarner l'Union Européenne. Votre exemple, c'est le contre-exemple.
Mais bon, ça s'appliquerait au Brésil, ça s'appliquerait à quelques autres pays.
Mais l'Amérique latine, c'est un peu la projection. Enfin, c'est très particulier.
Alors, revenons sur nos bases. Le foot, c'est sur AMC, Bruno.
Il y a deux choses. Ça fait 25 ans que je travaille en Europe. Hein. Donc j'ai voyagé, j'ai dirigé une organisation internationale, j'ai dirigé des grands groupes. Et franchement, c'est beaucoup plus facile et de plus en plus facile de travailler entre Européens. Et parfois, c'est beaucoup plus facile de travailler avec un Allemand qu'avec un Français. Je vous le dis.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Et de plus en plus.
Enfin, toujours est-il, Guillaume, qu'on a besoin que les capitaux circulent de manière beaucoup plus fluide.
Vous êtes d'accord pour dire que c'est un sujet vital, absolument fondamental.
C'est un sujet vital. Et ce que veulent les entrepreneurs, c'est qu'on ait un vrai marché intérieur. Et on veut un vrai marché intérieur de la tech, on veut un vrai marché intérieur de la santé. Et on en a marre
d'un
système avec des directives où chacun, en fait, utilise la directive pour se protéger. Mais ce n'est pas les peuples qui veulent ça. C'est juste des fonctionnaires qui se disent.
Mais il y aurait beaucoup d'autres chantiers.
Oui, mais
Bruno Coquet,
en fait, ma première surprise quand j'ai vu tous ces rapports, c'est que moi je croyais que c'était fait.
Ah, mais on est très très loin.
Mais qui vous a dit ça ? J'ai une légère surprise. Après, je vois bien aussi le problème que le principal investissement de l'épargne européenne, c'est des bons du Trésor américain. Donc on comprend que c'est un vrai sujet. Mais moi, j'en ai jamais acheté un, par exemple. Et donc du coup, je pense que c'est quand même des institutions financières qui les achètent. Ouais. Alors après, je comprends quand même qu'il y a des problèmes. Donc, dans les propositions du rapport Noyer, j'entends qu'il y a un produit européen.
C'est ça.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il le cite comme un produit de capitalisation et qu'il le lie aux retraites.
Tout à fait, ouais. Ou un événement exceptionnel dans la vie.
Ah oui, que la question, elle est là, Bruno. Qu'est-ce qu'on fait de notre excédent d'épargne à l'échelle européenne, qui est historique ?
Je pense qu'il y a des projets d'investissement qui arrivent pas à se financer. Donc du coup, ça, je pense que déjà, ça veut dire que les intermédiaires financiers ne font pas ou font mal ce travail. Ouais. En revanche, on voit bien que ce produit d'épargne de capitalisation très bien, mais en même temps, on voit bien aussi que au travers de l'autre proposition qui est la titrisation de dette,
c'est sensible, ça, comme sujet.
Oui, parce qu'on a l'impression de voir revenir
le traumatisme
les subprimes dilués dans des produits titrisés.
Un cas très, très isolé. Hein.
Oui, mais le point, c'est que du coup, on voit bien que les intermédiaires financiers, qui ont une puissance de feu en termes de lobbying importante, sont derrière ces rapports.
Oui.
Le rapport l'État est plus large que le rapport Noyer, dont on comprend qu'il est la position française par rapport au rapport l'État. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Du coup, j'ai tendance à lire plus le rapport l'État. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les intermédiaires financiers ne sont pas contents et proposent des choses qui libèrent leur activité. Donc, très bien.
Même Emmanuel Macron, ce matin, a dit qu'il fallait un peu déréglementer. S'asseoir un petit peu sur Solvency et Bâle, parce que les Américains ne le respectent plus. Donc ça aussi, évidemment, on se doute bien qu'il y a les banques derrière, enfin les établissements.
Oui, mais là, on parle d'intra-européens, quand même.
Ouais.
Oui. Hein, donc les Américains, que les Américains respectent pas l'intra-européen, c'est pas le sujet.
Ah ben non, mais c'est les ça s'applique à tout le monde.
Si je puis me permettre, le sujet qu'on a, je pense qu'on a bonnes industries intermédiaires qu'on arrive à financer. Vous en êtes l'exemple. On a de très bonnes industries automobiles. Peut-être qu'elles ont besoin de plus de high-tech. Mais là où on a un vrai problème, c'est vraiment la high-tech, les industries disruptives, etc. Et là-dessus, pour être au cœur de ce problème, parce que je suis patron d'une deep tech, le sujet qu'on a, c'est qu'on a vraiment besoin d'un marché de la taille de l'Union européenne. Si on l'a pas, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à se valoriser. Et donc, une boîte américaine équivalente, elle va se valoriser de facto 10 fois plus. Elle va trouver de l'argent moins cher. Et en plus, aux États-Unis, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est qu'il y a une tradition de prise de risque publique et privée. Je vous donne l'exemple. Dans les hôpitaux américains, un hôpital américain, il est prêt à mettre 10 millions d'euros pour un produit, un service qui n'existe pas.
Mais bien sûr.
Un hôpital, non, mais c'est important.
Non, et donc, mais vous avez raison. Non, mais parce qu'il y a une prise de risque, en effet.
Ils vont investir dans un truc qui n'existe pas et qui va permettre à une boîte de se développer tout en permettant à ses dirigeants de garder le capital.
Mais Guillaume,
en Europe,
oui, mais pourquoi parce qu'on s'est concentré sur la stabilité financière au sein de l'Union européenne. Oui, mais on ne s'est pas concentré sur le développement du marché. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas de puissance technologique, si on n'a pas de puissance scientifique, enfin ou encore militaire, c'est parce qu'on n'a jamais mobilisé la finance au niveau européen.
Non, c'est pas que ça.
Pour l'objectif et puis après.
Oui, on en revient au sujet des objectifs.
Il n'y a pas que le financement. Il y a l'achat, le préachat par la commande publique, ce que les Américains savent extraordinaire.
Ah bah bien sûr,
vous donner un exemple sur le diagnostic de nouvelle génération, qui est un sujet sur lequel les Européens ont toutes les compétences. L'armée américaine a mis 1 milliard, a donné 1 milliard, financé 1 milliard à un GAFA, qui a quand même tous les moyens pour le faire, pour faire ses travaux de manière accélérée. Et donc là, il y a un sujet. Et donc quand ils ont identifié le bon besoin et le bon acteur, ils financent et de manière massive. Ce que aucun État européen, et pas la France, n'a les moyens de faire seul. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une puissance européenne dans ce domaine.
Ouais.
C'est pas que financer le développement des boîtes avec de l'argent dilutif.
Non, mais ça passe aussi par la commande publique, bien sûr.
C'est la commande publique et la commande privée. C'est-à-dire qu'en plus, aux États-Unis, il y a des boîtes, il y a même des hôpitaux qui sont capables d'investir des dizaines de millions pour avoir la meilleure technologie. Et nous, un hôpital, il va éventuellement investir 30 000 balles ou 300 000 balles, et encore au bout de 3 ans, et on n'aura pas la
taille. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno Grandjean? La commande publique, ce serait un game changer en Europe?
Oui, mais encore faudrait-il avoir la même vision. Par exemple, cette défense qui est très structurante, c'est un moyen de réindustrialiser la défense.
C'est clair.
C'est un super outil, mais les Allemands n'en veulent pas. Les Italiens vont avoir des divergences. On est à négocier un peu avec les Polonais, d'ailleurs achètent du matériel coréen.
Regardez sur le SCAF et le char de combat.
Les Allemands sont en train de changer de vision quand même, Bruno.
Moi, pour avoir fait le tour.
Mais ça peut venir. Mais politique énergétique très structurante également. Les Allemands, et là, c'est pas la faute aux Français, nous ont mis dans un bazar pas possible. D'ailleurs, ils sont en train de se rendre compte que les données étaient faussées.
Oui, on en parlait tout à l'heure.
Ils sont en train de changer de position.
Donc, ils sont en train de changer de position. Mais sur tous les sujets très structurants, il n'y a pas de vision commune. Donc, on aura beau déverser de l'argent. D'ailleurs, il n'y a pas d'industriels. Il n'y a pas beaucoup d'industriels pour aussi prendre des risques.
Sur l'union des marchés de capitaux, la France et l'Allemagne, pour le coup, sont d'accord.
Bah, écoutez, tant mieux, il faut y aller. Mais sur l'usage de ces fonds, Qu'est-ce qu'on va en faire? Il n'y a pas de convergence.
Il faut derrière ça une commande publique, parce que l'un sans l'autre ne fonctionnera pas.
C'est comme la politique budgétaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'objectif. Donc du coup, après, le moyen suivra, en l'occurrence. C'est qu'on n'est pas d'accord budgétaire sur nationale, la façon d'utiliser et de le contrôler.
C'est pour ça que ce que je vous disais sur, d'abord, mettons-nous d'accord sur les priorités.
Oui, mais justement,
Emmanuel
Macron ne m'a pas expliqué ce matin avec qui il était d'accord. Et donc, du coup, moi, j'ai compris que jusqu'à présent...
Il est d'accord avec lui-même, sans doute.
Moi, je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'il porte
une dernière chose plus large, mais il aurait dû le faire savoir.
Vous parlez de politique budgétaire, sur la politique monétaire, il a quand même eu une phrase. Je ne sais pas trop ce qu'en pense Christine Lagarde, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit que la BCE doit muter, qu'elle doit plus seulement se fixer un objectif de stabilité des prix, mais aussi un objectif de croissance, voire de décarbonation. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Pas certain qu'il en ait parlé avec les voisins européens.
De la BCE, et puis au Conseil européen et au bord de la BCE. Qui pense quoi sur ce sujet? On ne peut pas sortir une idée franco-française comme ça et nous dire, c'est notre
problème. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que les statuts de la BCE doivent évoluer, Bruno Coquet?
Moi, j'ai tendance à penser que je ne comprends pas pourquoi on lui donnerait cet objectif-là. Qu'on lui donne un objectif de croissance, ça, je le comprends bien. Qu'on lui donne un objectif d'inflation, je le comprends bien. Mais qu'on lui donne un objectif de décarbonation, après, on peut donner tous les objectifs à tout le monde, mais je ne pense pas que c'est priorité.
Guillaume Clossard ?
Je pense que l'objectif de décarbonation, pour moi, ça reste plutôt à la BEI, la Banque Européenne d'Investissement.
Oui, tout à fait.
Ensuite, sur la Banque Centrale, il y a quand même une pratique et des pratiques, et vous le savez beaucoup mieux que moi, qui ont évolué, et de manière plus qu'implicite, on prend en compte aussi la croissance maintenant dans la politique économique. On essaie de trouver un équilibre qui n'est plus l'équilibre bête d'autrefois. Et donc on l'a déjà de facto intégré. Il y a eu des évolutions de pratique et peut-être qu'on n'a pas besoin de discuter de ça parce que déjà dans la pratique, on peut prendre un peu plus. Ça peut discuter. Mais ça se discutera d'autant plus qu'on a une stratégie globale très claire, notamment en matière de
Guillaume Grandjean, parce que ça vous concerne directement, la croissance, ne plus limiter la politique de la Banque Centrale Européenne à l'inflation, mais plus largement à des objectifs de croissance, est-ce que ça vous semble viable, entendable?
Moi, je ne suis pas expert sur ces sujets, mais je vois toujours la France, c'est du social-étatisme et des dépenses. Et ça, c'est vu par les autres comme une facilité. Donc on revient, arrogance française, manque de crédibilité, on est toujours dans la facilité. C'est toujours facile de baisser des taux, c'est toujours facile de dépenser plus, c'est toujours facile de s'endetter. On s'endette au niveau du pays, on est arrivé au bout, on veut s'endetter au niveau de la communauté des pays que forme l'Europe. Ouais. Ça ne marchera pas. Après, ça sera l'ONU, on demandera à l'ONU de nous faire des prêts également.
Voilà Emmanuel Macron, il y a un problème de crédibilité.
Si les autres voulaient du modèle français, ça se saurait. Vous l'aurez dit depuis longtemps. Donc, ils veulent autre chose. Donc, ils veulent quelque chose de différent. Ils pensent qu'en la France, il y a plein de choses qui ne marchent pas, qu'on ne respecte pas les textes que l'on promeut. Et ça, c'est un vrai sujet.
Bon, pour finir, il y a quand même un truc qui marche, visiblement, depuis quelques temps, c'est l'emploi.
Voilà. Alors, un mot en effet sur l'emploi pour finir avec le nombre de demandeurs d'emploi au premier trimestre publié ce matin par le ministère du Travail. Nombre stable d'un trimestre sur l'autre, aussi bien en catégorie A d'ailleurs que toutes catégories confondues. Donc manifestement, en effet, l'emploi tient bien malgré la croissance faible. Est-ce que ça nous rassure ces chiffres, Guillaume ?
Il tient bien partout en Europe et maintenant depuis quelques années. Et je me rappelle quand je travaillais avec Juncker qu'il avait... Enfin, on est rentré à partir de 2016-2017 dans une dynamique de meilleure employabilité et de meilleur emploi dans toute la France. Et pour le coup, l'Union européenne a fait un vrai travail parce qu'elle a aidé les États membres avec la crise à adapter les processus de formation, à améliorer l'employabilité, à améliorer le lien entre l'offre et la demande. Et ça, franchement, je peux le dire, c'est grâce à l'Union européenne. Et donc aujourd'hui,
les réformes ont du bon
partout, et même en Grèce. Je veux dire, les Grecs sont quand même contents que la situation soit améliorée, mais il y a quand même des problèmes qui sont devant. C'est que on a des emplois, mais pas forcément des emplois à aussi haute valeur ajoutée qu'on devrait les produire. On n'est pas capable de produire des emplois qui paient bien de manière massive, contrairement aux Américains et de plus en plus
les good jobs
aux Chinois.
Ce qui interpelle,
c'est vraiment
ce qui interpelle, majeur. On parlait tout à l'heure de Honda au Canada, là, 11 milliards. Vous savez combien ça va créer d'emplois? 1000.
Oui.
C'est rien. C'est hallucinant.
Pour 250 000 voitures, 40 000 voitures.
1000 emplois. Peu,
hein. Mais c'est
ça aussi quand même la question. Enfin là, pour le coup, ouais. L'industriel, vous pouvez venir. Tous ces investissements dans les industries de demain, ça crée plus d'emplois.
C'est le sujet qu'on a aussi en France.
Hein. Oui, mais c'est clair. Il ne faut pas compter sur l'industrie pour faire baisser le chômage. L'industrie, ce sont des emplois hyper qualifiés, hyper pointus,
qui coûtent cher.
En quantité relativement faible et qui coûtent très cher parce qu'il y a du capital fixé à mettre derrière.
Non, mais c'est la nouvelle donne. C'était pas le cas avant.
Thomas, regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai que il y a peu d'emplois, mais à très forte valeur ajoutée, et ces emplois ont un impact sur tout l'écosystème, par exemple, de la Silicon Valley, où ça crée aussi plein d'emplois qui sont très très bien payés, et de gens qui vivent très très bien. Donc c'est important aussi de créer ces 1000 emplois.
On dit toujours qu'un emploi...
Oui, 1000 emplois directs, mais
ça va créer...
C'est pas des dizaines, c'est pas des régiments, quoi.
Non, mais ça va créer 4, 5, 6 emplois de gens bien payés, et ça va faire monter l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est pas rien.
C'est pas ce qui se passe ici.
Non, mais c'est pas ce qui se passe ici, parce qu'on n'a pas la taille... Parce qu'on n'a pas la taille critique.
Non, c'est pas parce qu'on n'a pas la taille critique.
Que... Allez-y.
Non, c'est pas d'accord. D'abord, première chose, le chômage stagne, c'est normal. Les taux d'intérêt ont congelé l'activité. La croissance s'est ralentie. Deux trimestres après, l'emploi suit. C'est classique. Bon, ça baisse pas, ça monte pas. Il n'y a pas grand-chose à en dire.
Oui, RAS.
Il y a un peu d'activité.
Ça pourrait remonter avec une croissance quasiment nulle, non? Ou pas, je sais
alors,
pas.
Alors ça veut dire que la productivité diminuerait. Donc
ça, c'est possible. Il paraît que la productivité...
Non, mais il paraît que ça fait 10 ans que
encore
ça
encore plus, ouais. Du coup, ça c'est un vrai sujet. Le point, c'est qu'après, quels emplois on a créés? On a créé des emplois à bas salaire. C'est normal, on les subventionne depuis 30 ans avec des exos. Donc l'économie est bien faite, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on subventionne des emplois, on en crée. Le seul problème, c'est que les gens ne peuvent pas en vivre puisque la rémunération n'est pas assez importante et qu'on doit offrir des compléments de salaire et donc faire des dépenses publiques.
Parce que le contexte inflationniste aussi, oui.
Et à la fois pour compléter les salaires. Ouais. Et donc, du coup, on a cet équilibre n'est pas tenable dans le temps. Il n'est pas possible de considérer qu'on va aller jusqu'à zéro en coût du travail et tout donner via la redistribution en termes de revenus pour que les gens puissent vivre. C'est pas possible. Donc, du coup, ça veut dire que derrière, on a un déséquilibre, que ce déséquilibre, il est sur le marché des capitaux, on le disait tout à l'heure, sur le marché des biens, mais il n'est pas forcément sur le marché du travail. Et là, on incorpore un certain nombre de gens non qualifiés, etc. Mais au bout du compte, on diminue la productivité et ça va pas vers des secteurs productifs. L'industrie, qui est pas le secteur majeur, mais on a aussi des services à haute valeur ajoutée, on pourrait y aller.
Le mot de la fin pour vous, Bruno Grandjean. En fait, c'est des bons chiffres un peu en trompe-l'œil.
Oui, le mécanisme a été très bien décrit. Je crois qu'effectivement, il y a de quoi s'inquiéter, surtout que le retournement de conjoncture, maintenant, on le voit dans les enquêtes.
Il est là, oui.
Il arrive, bâtiment, agroalimentaire, beaucoup de secteurs. Donc, il y a une activité qui est soutenue à coût de dépenses publiques, d'emplois aidés.
Vous ne croyez pas à la baisse des taux, à l'effet positif de la baisse des taux?
Peut-être, il faut l'espérer qu'on se raccroche à ça. Mais enfin, en attendant, on a
vous
à faire
le travail pour le mois de juin
sur la productivité, qui est peut-être qu'on tiendra jusqu'au mois de juin et qu'ensuite on pourra réamorcer quelque chose de vertueux. Mais il ne faut pas se réjouir de ces chiffres. C'est des chiffres en trompe-l'œil et il y a vraiment des déséquilibres qu'il faut régler rapidement.
Avec une pénurie de main-d'œuvre qui reste votre réalité, Bruno.
Avec un énorme problème de recrutement dans tous ces secteurs qui sont très compétitifs ou des secteurs exigeants. Donc un vrai problème d'adéquation aussi entre les formations, entre la mobilisation des travailleurs et les jobs qu'on peut leur proposer.
La baisse des taux, le délai, c'est 4 trimestres. Hein.
Pardon ?
Baisse des taux, le délai pour que ça impacte
pour que ça se traduise dans l'économie réelle. Ouais.
Donc, ce n'est pas tout de suite.
La dynamique sur l'employabilité en Europe, elle date déjà depuis 7-8 ans. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et la France a rattrapé plus tardivement.
Elle n'a rien rattrapé. On est très mal classé dans les classements PISA, enseignement supérieur. L'enseignement supérieur.
Je parlais en termes de chômage, c'est quand même amélioré de manière importante.
Ce qui nous permet de terminer sur une note positive, Bruno.
D'accord, mais quand même, on était tellement haut depuis tellement longtemps. Il faut quand même apprendre les choses positives.
Messieurs, c'est l'heure de l'extra time. On y est. On est déjà arrivé aux arrêts de jeu de Good Evening Business. Vous avez chacun 30 secondes pour votre coup de cœur, coup de gueule, coup de foudre, coup de chaud, de l'actu. Guillaume Clossard, on commence avec vous.
Tout à l'heure, Jordan Bardella a fait un discours qui s'appelait « Bâtir l'Europe du 21e siècle ». Ça m'a rappelé un discours que j'ai fait sur exactement le même thème il y a 7 ou 8 ans, où on avait l'impression que c'était lui le grand constructeur de l'Europe. Et donc, pour moi, c'est vraiment le bal des faux culs. Et puis, c'est l'enfonceur des portes ouvertes, parce qu'il est parti exactement sur le même constat qu'Emmanuel Macron, pour donner le sentiment qu'il prenait les mêmes conclusions. En fait, c'est des conclusions qui aboutissent exactement à l'inverse, c'est-à-dire le repli sur soi de manière systématique. Donc c'était assez drôle.
Coup de gueule politique.
Ça, c'est
Bruno Coquet.
Ah ben moi, toujours un hommage à mon meilleur ami, le ministre de la Dette, qui hier a proposé la simplification de la fiche de paye.
Oui.
Moi, je pense qu'il aurait dû aussi proposer la simplification de la note au supermarché. On peut mettre que le total. Hein, il n'y a pas besoin de mettre toutes ces lignes auxquelles personne ne comprend rien. Hein, il suffit de le total, c'est vraiment tout le plus simple, ça économise du papier, ce serait génial.
On n'est même plus obligé d'avoir le ticket de caisse, hein, je vous signale. C'est dans la loi.
Comment ?
On n'est même plus obligé d'avoir le ticket de caisse, c'est dans la loi, on vous le propose maintenant, il n'est plus imprimé d'office.
Pas que le total.
Allez, alors, vite.
Mais où est-ce que vous voulez en venir ? Pardon, la conclusion, c'est quoi ? C'est que c'est une fumisterie, la simplification.
C'est de rendre la feuille de paye explicite. Ce n'est pas d'enlever des lignes en sachant plus de qu'est-ce qu'on paye avec de la capitation comme au Moyen-Âge.
Précision nécessaire.
Bruno Grandjean, le mot de la fin.
Je voulais juste rebondir à nouveau sur cette baisse de productivité. Hein. Ouais. Rappelez le chiffre, c'est 8% de productivité en moins par rapport à la tendance pré-Covid. C'est spécifique à la France, puisque les autres pays ont un phénomène, mais bien plus atténué. Ah ouais. Et en plus, on en connaît certaines causes. On a parlé de l'apprentissage, d'avoir des travailleurs qui rentrent dans le monde du travail qui n'y étaient pas et qui sont sans doute moins productifs. Mais il y a la moitié pratiquement de cette baisse de productivité n'est pas clairement identifiée. Un vrai problème, et notamment pour ce qui est de l'industrie, il faut pouvoir réinvestir, notamment pour relancer cette machine à augmenter la productivité pour les industriels. Je pense notamment à une mesure telle qu'elle est faite aux États-Unis, que l'on puisse réinvestir 100% de ses bénéfices dans l'investissement productif sans payer d'impôts. Ça serait une mesure favorable à l'investissement et à la relance de la productivité.
Le message est passé et l'idée aussi.
Merci à tous les trois. Le mystère de la productivité. Peut-être qu'on va arriver à le résoudre un jour sur ce plateau de BFM Business.
Force d'en parler.
On s'y emploie. Merci à tous les trois. Guillaume Clossat, Bruno Grandjean et Bruno Coquet. Un grand merci, Audrey Tcherkov.
Mais merci à vous, Thomas. C'était passionnant. Le débat est à retrouver comme tous les soirs, évidemment. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com ou alors l'ensemble des plateformes, les réseaux sociaux.
Notre appli
en podcast. Et puis, bien sûr, on vous retrouve demain soir, Thomas.
Absolument. On vous retrouve, Audrey, aux manettes lundi avec Guillaume Paul. Et puis tout de suite, c'est toute l'actu de la tech en direct sur BFM Business Tech & Co. avec Frédéric Simotel. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.